une vertu sacrée en droit pour tous, puisque finalement, à travers les politiques que l'Union européenne met en place, on voit bien que finalement l'Union européenne choisit à qui elle donne le droit de circuler. Et donc, par exemple, tu parles du fichage des étrangers, il y a en ce moment un texte qui est en train d'être discuté au sein des institutions européennes qui devrait être adopté bientôt et qui montre bien cette logique un peu de sélection, de tri des étrangers qu'on veut accueillir sur le territoire de l'Union européenne. C'est un texte qui s'appelle Frontières intelligentes. Parce qu'en ce moment, la nouveauté, c'est ça, c'est l'application de la nouvelle technologie, le contrôle des frontières, etc. Et ce système, en fait, ça va créer deux systèmes. Un système pour faciliter la circulation des personnes qui ne posent pas de problème, en fait, qui ne comportent pas de risque migratoire, comme on dit dans les textes de l'Union européenne, donc les hommes d'affaires, les diplomates. Donc ça, on va créer un programme qui fait qu'ils pourront passer plus facilement à la frontière. Donc voilà, ça sera, ils mettront leurs doigts, ça sera sur avec les empreintes digitales. Et ils pourront passer plus facilement. Et de l'autre côté, on met en place un système d'enregistrement des entrées et des sorties, où là, bah, on va afficher les personnes par rapport à leur visa, et en fait, ça va dire combien de temps la personne est autorisée à rester sur le territoire de l'Union européenne. Et l'idée, c'est après de pouvoir déclencher une sorte d'alerte des administrations en disant bah, la personne est là en passée par la frontière, alors que son visa est expiré. Donc ça revient, voilà, on accueille ceux qui ont les moyens, les touristes, surtout ceux qui posent des problèmes, et puis des indésirés, ceux qui ont des moyens modestes, des pauvres. Voilà, le droit de mobilité est complètement différent. Et même au sein de l'Union européenne, les citoyens de l'Union européenne eux-mêmes qui ont le droit à la libre circulation, on voit bien que c'est problématique aussi, puisque aujourd'hui, les Roumains, les Bulgares, enfin maintenant, normalement, il y a plus les plusieurs candidats qui arrivent, mais cette question se pose même pour les citoyens de l'Union européenne, ce droit à la liberté de circulation, et qui est aujourd'hui, en plus, en question par les parents, dans notre contexte actuel. Alors, peut-être que du coup, on peut prendre des questions de la salle pour les sujets, si tu veux réagir,
pour compléter ce que tu disais, pour revenir sur la question qui nous était posée tout à l'heure, quand vous nous demandez, mais liberté de circulation et liberté d'établissement, c'est la même chose. Et je pense que si on veut résumer, il y a d'abord la liberté de circulation et d'établissement intracommunautaire. Donc, pour les intracommunautaires, la liberté de circulation, c'est-à-dire juste je me balade et je rentre chez moi, elle est totale. La liberté d'établissement, il faut faire quand même très attention, même si vous êtes citoyen européen, vous ne pouvez pas aller vous installer demain, comme vous le voulez, en Allemagne ou en Espagne. Il faudra absolument prouver que vous avez, si vous voulez vous installer, c'est-à-dire plus de 3 mois, pour un long séjour, il faudra que vous prouviez aux autorités de l'État dans lequel vous vous installez que vous avez les ressources suffisantes et que vous êtes affilié à un budget de sécurité sociale. C'est les deux conditions. Donc, si vous voulez, la réalité matérielle de la liberté d'établissement, même pour les ressortissants communautaires, elle est très limitée. Et ensuite, quand on passe aux ressortissants des États tiers, là, je pense que vous l'avez bien compris, il n'y a absolument aucune liberté ni de circulation, ni d'établissement, sauf rares exceptions. C'est-à-dire que pour liberté de circulation, visa, il va y avoir un contrôle très, très précis et une sélection en définitive assez drastique qui va s'opérer grâce à des fichiers absolument tentaculaires qu'on a mis en place, encore une fois, le système d'information Schengen en matière de protection des données à caractère personnel, c'est un monstre juridique. Et que l'on ne peut pas aujourd'hui, que l'on ne peut pas facilement contrer parce que la construction est assez complexe. Mais c'était pour répondre tout à l'heure à la question qui nous était posée et à laquelle on n'avait pas répondu, et qui allait dans ton
temps. Alors, on peut prendre quelques questions, s'il vous plaît.
Juste pour revenir sur ce que vous disiez, justement, la circulation des citoyens intra-européens. J'appartiens à une association défense des droits des Roms. Donc depuis plusieurs années, nous battons pour utiliser des conditions dignes, si possible, sur les quelques pays. une ville qui était occupée sur la ville et qui ont été démantelées à la demande du maire de Strasbourg, hein, à sa demande au tribunal, je dirais. Hein. Donc le tribunal a validé les démantèlements. Là, depuis 4 mois, on a un nouveau problème, c'est-à-dire que le dernier grand camp démantelé, donc camp illicite, hein, dit illicite, ces personnes, une centaine de personnes, ont été déplacées à 15 km de la ville sur un ancien camp militaire qui a été prêté, je dirais, quelque temps hein, à la ville. Ce camp est clos avec grillage, barbelé, etc. À l'intérieur du camp a été montée une clôture intérieure, donc, qui réduit encore plus l'espace, sur lequel a été disposé des caravanes. Et donc, cette centaine de personnes, hommes, femmes, enfants, sont parqués, je ne sais pas comment dire, hein, sous un très grand hangar dans ces caravanes. Alors, en apparence, effectivement, on n'est plus du tout sur le terrain boueux avec les rats qui courent partout, qui était près du centre-ville. Mais en apparence seulement, parce que ces gens-là, du coup, ne peuvent plus circuler comme ils le veulent. Il y a un système de transport en commun établi par la ville qui les amène, eux et les enfants, une fois par jour et les ramène ensuite au camp. Mais tout ça est tout à fait contrôlé. Et puis, par contre, on ne peut pas rentrer sur le camp. C'est-à-dire que nous, association, nous sommes interdits de camp. Toute personne qui veut rentrer doit donner ses papiers d'identité, la plaque d'immatriculation de son véhicule et est autorisée ou non à rentrer. Il y a une liste noire établie par un fonctionnaire chargé des Roms à la ville où certains noms alors, d'associations qui suivaient les Roms justement avant, certaines personnes, des médias indépendants, interdits d'entrée. Et puis, alors par contre, il y a des visites guidées hein, par ce fonctionnaire-là et qui montre ce qu'il veut bien montrer. Et puis voilà, alors nous, on est très inquiets parce qu'on se dit quelle est la légalité de cette chose. C'est très étonnant. Alors avant, on avait l'impression qu'on était, quand c'était les camps illicites, hein, qu'on avait presque pour des citoyens européens un traitement qu'on adopterait plutôt pour des citoyens extra-européens, sans papier ou illégaux, alors qu'ils sont tout à fait, ils ont leur papier, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est carrément le statut de ce camp qui nous semble très étrange. Alors en plus, là-bas, on leur apporte de la nourriture, c'est la Croix-Rouge qui gère le camp. Donc la nourriture leur est apportée. Enfin, on a l'impression que tout est fait pour qu'ils restent dans ce camp et que surtout, ils ne viennent plus mendier en ville ou etc. Donc là, ça s'est en plus durci, je dirais, avant les élections. Mais on est dans une situation très, très étrange. Et puis, sur les camps illicites qui restent, et là, qui sont des petits camps avec toujours peut-être 4-5 familles, pas plus, là, c'est harcèlement quotidien, la police, etc., dégager, aller dans d'autres villes, mais dégager d'ici. Voilà. Donc là, on est dans une double situation et juridiquement, on n'y comprend plus rien. On a juste l'intuition qu'il y a quelque chose de pas normal et en tout cas pas très légal, ou en tout cas de manière très douteuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Alors, pas grand-chose.
Une deuxième question, monsieur. Juste à la question. J'ai une question par rapport à j'ai connu deux figures où des étrangers qui étaient fuyés de leur pays, et donc fuyés parce qu'ils étaient tués par la mafia. Ils sont arrivés en catastrophe en Hongrie, parce que c'était de façon plus proche de chez eux. Et sauf que la peine arrivée sur Hongrie, on les avait repérés et on leur a fait dire que s'ils ne se soumettaient pas aux gens qui étaient persécutés, ils allaient subir des attaques, des brimades. Donc ils avaient fui en France par les cochers. Parce qu'ils échappaient à ça. Et de ce fait, si je me comprends pas, si je me souviens bien, ils étaient persécutés en France aussi malgré la demande pour l'asile. Simplement parce qu'on leur disait, si à Hongrie que vous êtes rentré une première fois dans la Schengen, c'est là-bas que vous devez retourner pour gérer vos affaires, malgré l'impression qu'il pouvait y avoir de violence sur eux dans ce pays-là. savoir s'il y a eu une évolution par rapport à cette gestion. Je connais aussi ça, quelqu'un qui est arrivé aussi en Hongrie, et puis qui a été pris en destin légal, envoyé à l'extérieur, qui est revenu avec sa famille parce qu'il avait des attaches en France, et là de nouveau, il a mis un temps fou à accepter sur le territoire français parce qu'on se disait, vous avez déjà atterri une première fois à Hongrie, c'est là-bas que vous devez régler vos problèmes, alors sa famille est évidemment ailleurs. Donc, je voudrais savoir si ça a évolué. La deuxième question, c'est lié à ce que j'ai entendu il y a quelques dizaines de jours, que certains pays européens vendaient des passeports aux gens riches. Est-ce qu'il y a une... est-ce qu'il y a une rencontre dans l'espace européen de vendre des passeports pour pouvoir acquérir la nationalité locale? C'est assez... en un chiffre, je crois, de se faire rencontrer des sommes relativement harmonieuses pour le pays.
On reprend peut-être une troisième question. Je ne vois pas de main. Donc on peut faire une première question. Alors, à la première question, je m'appuie aussi sur le judiciaire qui vient de voir. Pour la première question, très honnêtement, je vois en touche, c'est des questions qui sont super compliquées. Bien évidemment que ça va être complètement illégal, ce genre de procédure. Mais juridiquement parlant, c'est sûr qu'il doit exister. En termes de questions prioritaires de constitutionnalité, de loyauté, etc., il va y avoir des arguments, évidemment, qu'on doit pouvoir gagner, mais le problème aujourd'hui avec la situation des robes, c'est que c'est terriblement compliqué, les juridictions votent quand même très franchement en touche. Alors on peut s'appuyer notamment sur les arrêts qu'a rendu la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions-là, qui est assez constructive et qui va sur le terrain notamment du respect de l'article 8, c'est-à-dire le respect à la vie privée et familiale. Il y a une jurisprudence qui est relativement précise et puis assez novatrice de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est toujours pareil. Pour pouvoir l'invoquer utilement, cette jurisprudence, devant les juridictions nationales. Et puis, vous savez, se retrouver devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très aléatoire. Il faut avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui peut mettre des années, vous le savez. Et puis ensuite, il faut quand même se rendre compte que certes, l'an dernier, il y a eu certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été assez... qui ont été assez remarqués, qui sont quand même assez généreux et assez constructifs. Mais très honnêtement, ces derniers temps, il y a quand même une tendance au resserrement de la jurisprudence, ce que l'on note aussi devant la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même un souci qui est énorme et dont pas grand monde parle, c'est qu'aujourd'hui, le contentieux des étrangers, au niveau national et au niveau européen, c'est un contentieux qui est énorme. Devant les tribunaux administratifs, je ne sais plus, les statistiques sont complètement délirantes, on ne met aucun moyen là-dessus. Et le problème actuellement, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme est en train de complètement s'asphyxier face à ce contentieux, notamment, vous pouvez les bénévoles de la CIMAD, vous connaissez ça, mais les mesures provisoires, vous savez, qui sont demandées en cas d'éloignement, de mesures d'éloignement, etc., c'est vraiment systématiquement demandé dans la Cour européenne des droits de l'homme, ça lui donne un niveau monstrueux. Et avec l'entrée en vigueur du côté de Luxembourg et de la Cour de justice de l'Union européenne, on connaît le même phénomène parce que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a donné la possibilité d'invoquer le droit des étrangers devant la Cour de justice de l'Union européenne, là aussi on a une explosion du contentieux qui fait qu'on a une jurisprudence assez dynamique dans un premier temps, mais qui est en train, je trouve, assez dangereusement de se resserrer face à mon avis à des nécessités de politique jurisprudentielle qui sont
problématiques. Ils n'arrivent pas à gérer le flux et sans acheter une théorie du complot ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des nécessités de politique jurisprudentielle qui sont agitées. Donc tout ça, ça reste très aléatoire, et aujourd'hui le contentieux relatif à la communauté de Rome, c'est un contentieux à part entière pour être, du point de vue juridique, ultra astucieux, parce qu'on n'a pas forcément la décision que l'on veut contester non plus. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret à contester, donc c'est assez compliqué. S'agissant des questions de monsieur, alors la première question, on est dans une hypothèse très classique, c'est les hypothèses de la cible dont je vous parlais tout à l'heure et le système Dublin. C'est-à-dire que pour des populations comme ça qui sont persécutées, il y a un système qui a été mis en place grâce à, ou à cause de la Convention Dublin qui a été prise par le règlement Dublin. Et qui fait que lorsque, en France, vous avez affaire à un demandeur d'asile, vous n'avez étudié sa demande d'asile que si vous êtes autorité française compétente. Donc, dès qu'on va avoir affaire à un demandeur d'asile, qu'est-ce qu'on fait? On lui prend sa main, on lui met ses empreintes, on passe ses empreintes dans le fameux fichier Eurodac. C'est le système, si vous voulez, de fichier des demandeurs d'asile. Et là, on s'aperçoit qu'il est passé, qu'il est entré par la Hongrie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On dit, je ne suis pas compétente, moi, de France, on vous met dans un avion, on vous envoie en Hongrie, et vous, la Hongrie, vous allez être compétente. C'est ça, le système, si vous voulez, Dublin. Avec plein de critères, hein, si on est mineur, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a plein de critères... les bénévoles connaissent là aussi, il faut être polytechnicien pour comprendre d'ailleurs quelque chose à ces critères, mais ce n'est pas systématiquement l'état d'entrée, mais très souvent ça va être quand même l'état d'entrée, ce qui fait peser d'ailleurs une responsabilité quand même assez importante sur les états frontaliers tels que la Grèce, la Hongrie justement. Et le problème aujourd'hui, et là ce sur quoi on peut jouer aujourd'hui, c'est que si vous êtes entré et que vous êtes renvoyé dans un État qui n'est pas respectueux des droits fondamentaux les plus élémentaires, vous pouvez contester utilement ce renvoi. Cependant, la Grèce, maintenant, c'est quasiment automatique. Un État n'a plus le droit de renvoyer normalement en Grèce parce que, d'après X rapports et X décisions jurisprudentielles, la Grèce, aujourd'hui, ne respecte pas les conditions d'accueil minimales des demandeurs d'asile. Et pour la Hongrie, c'est en train de bouger. Il y a eu plusieurs décisions récentes du Conseil d'État qui sont en train d'appliquer en fait la jurisprudence européenne relative à la Grèce à la Hongrie. Et il y a eu aussi deux affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est en train de bouger justement pour la Hongrie. Donc là, je pense qu'il y a de quoi gratter de ce côté-là assez utilement, il y a une jurisprudence qui est assez fournie. Et pour la cause des passeports, alors, il y a beaucoup de pays, en fait, où plus que... Je sais pas si tu avais passé un article, il y avait eu des articles dans le courrier international sur ces questions. Je crois qu'il y a la Lituanie, il y a Chypre, il y a le Portugal, enfin, il y a plein d'États qui font ça. Très honnêtement, je ne sais pas ce que tu as vu, toi, là-dessus, quant à la liberté, si vous voulez, qu'ont les États d'accorder... je ne peux pas vous répondre. Je me suis posé la question, je me la pose encore, à vrai dire, et je ne sais pas dans quelle mesure, parce que là, c'est la porte ouverte quand même à des abus assez très étonnants. C'est un détournement total, si vous voulez, des règles communes que l'on a adoptées ensemble, mais je ne vois pas comment on peut les contester, puisque... on a de plus en plus d'États qui sont favorables à une telle politique et qui l'appliquent. Donc ça, mais ça me paraît être philosophiquement parlant et politiquement parlant complètement, si vous voulez, le contraire à ce qui a été mis en place.